What an amazing sound and what an experience.
Quel son incroyable et quelle expérience d'avoir entendu cette chorale juste avant que je parle. Les deux années passées ont été plutôt horribles parce que pour la conférence générale des anciens, je venais ici donner un sermon et il n'y avait personne dans l'audience. C'était enregistré. Et hier soir, quand nous sommes arrivés, il y avait tellement de monde dans l'atrium, là, dans l'entrée de l'hôtel. On n'a presque pas bougé, resté sur place à parler avec tout le monde. C'était vraiment formidable de se retrouver après 2 ans de pandémie. Et pour tous ceux qui écoutent le télécast à travers le monde, nous souhaitons la bienvenue à tous les anciens. Qui sont venus pour cette JCE. Psaume 127, verset 1. Reportez-vous à Psaume 127, verset 1. J'aimerais commencer ici. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. L'une des raisons pour lesquelles nous assemblons lors de la conférence des anciens, c'est pour discuter de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a fait. La maison, le temple qu'il est en train de construire, parce qu'à moins que ce soit lui qui ne le construit, ce travail ce serait en vain. Historiquement, nous avons appelé cela l'œuvre. C'est presque un terme qui est uniquement propre à l'Église, mais c'est dans la Bible, donc on peut l'utiliser. Nous appelons ça l'œuvre. Quand je suis venue à l'Ambassador College, on disait prier pour l'œuvre, penser à l'œuvre, travailler pour l'œuvre, 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 l'œuvre. On en parlait tout le temps. Pour ceux qui sont venus ici pour la conférence, l'une des choses importantes que nous faisons, c'est de comment nous construisons ou bâtissons l'œuvre de Dieu. Comment sommes-nous impliqués dans cette construction de l'œuvre? Que devrions-nous faire? Dieu résume la base spirituelle pour son opération ou son plan opérationnel dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, verset 11. Et où il est question de son œuvre, de sa parole. Il est question de sa parole, 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, Dieu prend responsabilité et assume ses responsabilités de cette œuvre et le succès de cette œuvre. Nous considérons la Bible comme une chronique de l'histoire humaine, mais c'est aussi une chronique de l'œuvre que Dieu a continuellement accomplie. Il y a plusieurs endroits dans la Bible qui parlent de l'œuvre. L'une, c'est dans Romains 9 et verset 27, où l'apôtre Paul se réfère à Ésaïe 10, au verset 23, il cite Ésaïe 10, au verset 23, il le cite, que Ésaïe que les enfants d'Israël soient comme le sable de la mer, mais un reste sera sauvé. Il est question d'un genre de catastrophe, d'une rédemption, du salut ici. Parce qu'il finira et l'œuvre, il le dans de sa justice. Parce que Dieu fera une œuvre rapide. Il y aura une œuvre, il y a une indication qu'il y aura une œuvre qui aura lieu vers la fin des temps. À la fin des temps, qu'elle sera assez courte. Voici, nous sommes dans l'œuvre. Et nous devons nous demander quelle est notre responsabilité, quels sont les passages que j'ai toujours aimé regarder. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, au bureau, nous avons eu, c'était un passage dans lequel on avait mis l'accent dans le passé. Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. Verset 4 en français. Moi, certains disent, je suis de Paul et un autre d'Apollos. Mais au verset 6, il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul a planté, il a parlé dans une synagogue juive, dans les endroits publics comme à Athènes, il a planté. Il n'était pas nécessairement un pasteur, même si on dirait qu'à Éphèse, il était un peu comme un pasteur. Mais il a planté plusieurs églises à travers l'Asie mineure, la Grèce. Apollos, probablement un ministre, un ancien, a arrosé. Il s'en est occupé. Il l'a nourri spirituellement. Mais il dit que c'est Dieu qui l'a fait croître. Au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Celui qui plante ne peut pas faire la plante, grandir la plante, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ils sont une équipe et nous sommes cette équipe. Nous sommes ceux qui plantons et qui arrosons. Nous plantons la graine à travers le média, la publicité, Google, les campings publics et tous les moyens qui nous sont disponibles pour mettre l'œuvre de Dieu dans l'esprit des gens. Et il y a des pasteurs qui passent par derrière et qui arrosent. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La source principale de vie, toutefois, c'est toujours Dieu. Comme nous examinons le plan opérationnel de Dieu, j'aimerais vous donner un petit peu d'historique sur comment est-ce qu'on a planté l'Église de Dieu. L'Église unie de Dieu a officiellement commencé pour le jour de la Pentecôte en 1995, il y a 27 ans. Et très peu de temps après ça, le bureau de directeur, qui était un précurseur du Conseil des Anciens, s'est assemblé chez nous dans notre maison Arcadia en Californie. Dans notre salon, je ne pense pas que c'était tout le monde, il y avait à peu près 8 membres, ils n'étaient pas tous là. C'est le comité qui avait organisé la planification stratégique d'un plan pour faire l'œuvre. Cela a commencé avec une vision. Le fait de voir, les gens disent, quelle est la vision de votre Église? C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous savez, vous devez faire pour voir là où on voulait aller, là où on voulait finir. Et ensuite, nous avons parlé d'une mission. Comment est-ce qu'on y arriverait? Et nous nous sommes posé la question de comment est-ce qu'on allait arriver là où on pouvait voir que Dieu voulait qu'on aille. La plupart d'entre nous avions aucune expérience dans le fait de planifier de façon stratégique une œuvre. Mais quelque chose, nous avons commencé à comprendre des petites choses au fur et à mesure. Nous avons compris rapidement que la garantie spirituelle d'accomplir ce genre de travail, c'est de comprendre comment est-ce que cela allait refléter la volonté de Dieu et cela nous a, on a réalisé, je vais lire cela à nouveau parce qu'on a très vite compris que la spirituelle garantie d'accomplir cette œuvre est de comprendre comment est-ce qu'elle doit refléter la volonté de Dieu, ses priorités et sa volonté. Au début de la lettre aux Éphésiens, dans les 3 premiers chapitres, nous voyons que tous les bénéfices spirituels et bénédictions spirituelles viennent de Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1, verset 22, c'est un verset clé qui montre qui est la tête de son Église, maintenant. Éphésiens 1, verset 22. Et il, en parlant de Dieu le Père, a tout mis sous ses pieds, il s'agit de Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a assigné Jésus-Christ le rôle d'être le chef de l'Église. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous faisons partie de ce corps. Quel est le résultat ultime que Dieu veut achever? Je pense qu'il est important que nous devons comprendre ces principes simples et pourtant et assez basiques. Dans la vision de l'Église, nous voyons que Jésus-Christ nous guide vers un potentiel humain incroyable, de faire partie de la famille de Dieu. Voici le résultat de la famille de Dieu dans Hébreux 2 et verset 10. Nous voyons ce... Il convenait en effet, Hébreux 2, verset 10, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà ce qu'il veut. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Il veut étendre sa famille. C'est le résultat de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que le mot gloire veut dire ici? Le soleil est glorieux. Ça veut dire qu'il brille, il a plein de lumière. Il veut que nous soyons éternels. Et plein de lumière, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et c'est, il nous avait en tête lorsqu'il a voulu faire ça. Depuis le temps de Adam et Ève, à travers l'histoire de Noé, l'Exode, Dieu a toujours eu une œuvre. Mais ce plan de salut, si vous pouvez l'appeler ainsi, l'œuvre de Dieu, si vous vous souvenez que ceux qui veulent faire, son but principal est de produire des fils et des filles dans sa famille. Le plan, nous devons toujours savoir qui nous sommes et là où on s'en va. Ce que nous sommes, notre potentiel en tant qu'être humain. Il y a des éléments qui nous donnent de l'énergie là, dans ce plan, des versets clés. Je vais vous en lire 4 dans le livre des Proverbes, parce que il parle de notre attitude, de ce que nous devrions faire, et l'état d'esprit que nous devrions avoir, l'état d'esprit que nous devrions développer en faisant cette œuvre. Dans Proverbes 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous demandons à Dieu de nous montrer et de ne pas faire l'œuvre de Dieu tout seul, sans lui. Dans Proverbes 6, 16 plutôt. Proverbes 6. Mais il a donné une mauvaise référence ici, mais c'est on doit donner notre travail à Dieu et c'est lui qui établira. On prépare et on soumet nos projets à Dieu. Au verset 9, je crois qu'il est dans Proverbe 16, un homme planifie ses projets, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le conseil de l'Éternel restera. Nous nous souvenons que Dieu a un plan et nous devons comprendre ce qu'il est, ce qu'il veut qu'on fasse. Les grands prophètes, les apôtres et les autres leaders de l'Église à travers l'histoire se sont soumis à la volonté de Dieu et à sa direction. Ils ont compris que Jésus-Christ est à la tête de l'Église. Depuis l'époque de Jérémie, ils ont compris que c'est Dieu qui est en charge de l'œuvre. Certains des travailleurs importants mentionnés, c'est Jérémie qui a eu un ministère tumultueux. Il a lutté contre de grandes difficultés pour faire sortir l'œuvre de Dieu à son époque. Jérémie a écrit dans Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Dans Jérémie 10, verset 23. Même ce que j'ai des bonnes idées et de bons sentiments, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'apôtre Paul, également très, avec beaucoup d'humilité, a parlé de son travail dans l'œuvre. Il était un persécuteur et il en est passé à être un apôtre. Et pourtant, il se considérait toujours avec cette attitude quand il a dit « Je suis le moindre des apôtres » qui est dans 1 Corinthiens 15, verset 9, où il dit qu'il n'est pas digne de faire ce qu'il fait. Mais Jésus-Christ lui-même, d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Dans l'état où le Christ s'est sacrifié pour nous, il était physique, il était Dieu également, mais dans l'état où il a été tué, où il a été sacrifié, il était un humble homme. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il a sauté un autre passage sans dire la référence. Il dit « Accomplissez notre foi », je crois que c'est dans Philippiens, « Accomplissez ma joie en étant d'un même esprit, d'être d'un même accord, que rien ne soit fait par ambition. Mais qu'en toute humilité, chacun de vous estime les autres mieux que soi-même. Soutenez-vous les uns les autres. Que chacun de vous cherche non pas votre propre intérêt, mais pour les intérêts des autres. » Et il dit, l'apôtre Paul continue, que cet esprit soit en vous, qui était également en Jésus-Christ, qui est venu en forme de Dieu et qui n'a pas considéré comme une perte. J'essaye de trouver la référence, c'est dans Philippiens 4. Il savait que Dieu le Père et lui travaillaient vers ce but, mais il s'est fait d'aucune réputation. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu dans la forme d'un homme et il a été trouvé. Il s'est humilié, donc, et est devenu obéissant au point de la mort, même la mort par la croix. Est-il possible d'être plus humble que ça? Lorsque vous voyez dans le télescope de Hubble toutes les choses qui ont été faites, et le Christ a quitté, il a abandonné tout cela pour mourir pour moi, pour l'humanité. Quelle humilité! Pour accomplir proprement le plan de Dieu, nous dans le ministère, devons réaliser que notre service n'est pas à cause de nos talents. Et je veux remercier le ministère pour les sermons et pour le soin qu'il donne. Je suis contente d'entendre la sagesse, le plan de Dieu, la sagesse de notre ministère plus jeune. On a des gens qualifiés qui ont été ordonnés. Ce qui est important, c'est la condition de nos cœurs lorsqu'on fait l'œuvre, l'humilité que ça prend de pouvoir faire cette œuvre, et ce que Dieu peut faire avec une vie qui est complètement soumise à lui. C'est l'environnement dans lequel Dieu peut faire son travail. La Bible également est remplie d'exemples de gens qui n'ont pas embrassé cette voie de vie, tout comme Simon le magicien dans le début de l'Église primitive. Le Christ les avait avertis qu'il y aurait des ennemis de l'Église. Mais l'histoire de Simon le magicien dans Actes chapitre 8 est l'histoire d'une personne qui aimait le pouvoir, qui était un genre de magicien, qui avait des gens qui le suivaient, n'est-ce pas? Et il a vu l'œuvre que les apôtres faisaient et il voulait acheter ses capacités. Il voulait acheter une position dans l'Église. Il a vu les baptêmes, il a vu des gens qui faisaient des miracles, et il a dit « Ah, je voudrais pouvoir faire ça et être important aux yeux des gens. » Un autre exemple, c'est Diotref, qui est mentionné dans 3 Jean. Il était un pasteur et il aimait la prééminence. Il aimait considérer être important. Et il a même rejeté l'apôtre Jean, qui était un parenté de Jésus-Christ, qui l'avait connu, qui l'avait touché, l'un des apôtres originaux, et il ne lui avait pas permis de venir dans son église. C'était les gens qui avaient apporté de mauvais enseignements, de faux enseignements. Alors que je priais, et en pensant au résumé de la prière modèle, je pense que c'est le point central de mon sermon. Je pensais à moi-même, qu'est-ce que je devrais écrire en tant que président? Et alors que je révisais pour la 100e fois la prière modèle, j'ai vu une répétition, j'ai vu quelque chose qui était important comme parallèle à un état d'esprit que quelqu'un doit avoir pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis passée d'un point à l'autre et je vois des parallèles dans la prière modèle comme étant une façon de travailler dans l'œuvre. Ce résumé de la prière modèle, il y a 7 demandes. 3 sont à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et les autres 4, ce sont des demandes pour nous. C'est un état d'esprit, parce que cela contient les priorités pour faire l'œuvre. La prière modèle nous sert de modèle pour faire l'œuvre également. C'est l'état d'esprit qu'il nous faut avoir. Il y a 2 choses, vous les connaissez peut-être par mémoire. L'un, c'est les 10 commandements, 2 choses que tout le monde devrait connaître. J'espère que tout le monde pourrait les réciter. Tout le monde les connaît, n'est-ce pas? Mais les autres choses que nous connaissons par mémoire, qu'on pourrait réciter, c'est notre Père qui es aux cieux, la prière modèle. Tout le monde connaît. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, alors que nous pardonnons les autres. Ne nous apporte pas des tentations, mais délivre-nous du malin. Je pense que c'est mémorisé, des passages mémorisés par plus de gens que n'importe quel autre passage. En Ukraine, il y a une plaisanterie qui est dit dans les églises. Il est tellement idiot, il connaît même pas la prière modèle. C'est une expression courante. Examinons les divers éléments de cet état d'esprit, de la prière modèle, pour l'appliquer. Premièrement, notre Père qui es aux cieux, c'est une bonne façon de commencer. Que ton nom soit sanctifié. Nous pouvons regarder Dieu avec un profond respect pour avoir une relation avec lui, avec des remerciements, et vous dégagez du chemin. Vous dites pas « Dieu, essaye de me comprendre ». Non, non, nous devons comprendre Dieu. Nous devons lui faire confiance pleinement. Charles de Gaulle, qui a guidé les Français en exil, était connu pour avoir fait cette prière. « Dieu, s'il te plaît, fais-moi confiance. » Je crois qu'il avait mis ça à l'envers. On ne demande pas à Dieu de nous faire confiance, n'est-ce pas? nous demandons à Dieu qu'il nous aide à lui faire confiance. Et nous allons vers lui pour retrouver notre chemin. L'œuvre de Dieu commence avec son but, sa puissance, son éternité. Et plus on comprend de façon scientifique l'univers qui nous entoure, on en devient de plus en plus incroyablement émerveillé par la beauté de Dieu. Nous sommes temporaires, nous sommes petits, et pourtant Dieu veut une relation avec nous. Il veut une relation qui sera une relation familiale, qui fera de nous ses enfants. Est-ce que c'est ainsi que nous pensons? L'œuvre de Dieu commence-t-elle avec cette réalisation que Dieu est un homme, que nous devons commencer et l'approcher, l'œuvre de Dieu, en sanctifiant son nom? La deuxième chose que nous prions et qui est importante dans la prédication de l'œuvre, c'est de réaliser que ton règne vienne. Il n'y a probablement rien de plus discuté de début jusqu'à la fin dans notre prédication que le royaume de Dieu, le sujet du royaume de Dieu. C'est son plan opérationnel, c'est ce qu'il proclame et prépare. Le fait de sanctifier son nom, de nous tourner les yeux vers Dieu et ensuite de regarder vers son royaume, toutes ces choses mettent nos yeux en dehors de nous-mêmes. On tourne nos yeux vers lui, on tourne nos yeux vers son royaume. C'est ainsi qu'on doit accomplir l'œuvre. Cela suggère évidemment que son royaume n'est pas là, on le sait. Mais on doit s'y préparer. Mais qu'est-ce que c'est que nous ne comprenons pas par rapport au royaume de Dieu et son importance? L'horloge de l'Apocalypse a été mise à jour. Elle est juste à moins d'une seconde avant minuit. Nous sommes très proches de la fin de cet âge. Nous sommes sous l'épée de Damoclès. Quelque chose pourrait casser très vite. 1 billion de gens pourraient mourir très rapidement. Nous avons vu tous les bruits de guerre qui nous viennent de la Russie. Ces choses sont réelles. C'est des choses qui pourraient... Mais on se fatigue d'entendre parler de ça, n'est-ce pas? On devient culturellement désensitivisé. Et je me suis dit, en prêchant, je ne vais pas parler de l'Ukraine parce que c'est que des gens, davantage de gens morts et plus de désastres et de choses. On n'a plus envie d'en écouter. On n'a pas envie d'écouter la Chine et Covid. On en parle depuis 2 ans. Ça nous fatigue, n'est-ce pas? On devient insensible. C'est une insensibilité collective qui nous prend. Même l'économie. Même lorsque le prix de l'essence est tellement plus haut qu'il ne l'était avant. C'est même des choses qu'on n'a pas envie d'en discuter tout le temps. Ce matin, j'ai reçu quelques petites vidéos de l'Ukraine, de petits enfants qui priaient à l'assemblée le jour du sabbat aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée. Il y avait 5 petits enfants qui pleuraient. Ils étaient chez eux, ils se tenaient les mains en priant, en disant « Dieu, s'il te plaît, protège-nous des tanks, protège nos frères et nos sœurs qui sont morts et qui ont perdu, les autres qui ont perdu leur maison. » Ça m'a fait pleurer et ça m'a beaucoup touchée. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. À la télévision russe, ils ont montré la semaine dernière comment est-ce qu'ils pouvaient détruire l'Angleterre en juste une seule bombe de mégatonnes. C'est formidable, n'est-ce pas? Avec leurs trucs supersoniques et leur tout ça, ils flexent leurs muscles. C'est tellement horrible qu'on ne veut pas y penser. Toutefois, notre travail est de proclamer le royaume de Dieu, parce que même s'il y a une horloge de l'Apocalypse, c'est également l'horloge du royaume de Dieu. Figurativement parlant, le royaume de Dieu vient juste après minuit. Ainsi, l'adresse du Christ le message du Christ dans Marc 1, verset 15, Marc 1, verset 15. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. » À la fin de Matthieu 24, 14, il a dit, « L'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est un thème qui a lieu à travers toutes ces choses. Et c'est peut-être même ce thème qui vous a apporté à l'Église, qui vous a amené à l'Église, de découvrir ce qu'était le royaume. C'était pas quelque chose, un nuage au ciel. C'était quelque chose de réel qui va aller venir sur la terre, qui avait du sens pour répondre aux problèmes de ce monde. Troisièmement, pour revenir à la prière, prière modèle, il dit, quelle est ta volonté? Il dit au Dieu, nous demandons à Dieu ce qu'il veut et ce qu'il veut vraiment, ce que sa volonté est. Parce que la famille est importante à Dieu. Être capable d'étendre sa famille à plus que juste Dieu et Jésus-Christ, et cela est sa volonté. Apporter tous ces gens à la gloire de Dieu, cela devrait être notre vision. C'est la vision de l'Église de Dieu unie, d'apporter plusieurs enfants à la gloire. C'est le résultat du salut. Et on se demande dans toutes les choses que l'on fait pour accomplir l'œuvre, on se demande toujours la question, est-ce qu'on prêche vraiment le résultat du salut? Que nous devenons fils de Dieu. Il ne s'agit pas de notre revenu, de nos activités, mais des résultats, l'œuvre de Dieu. Ce qui importe, c'est le résultat. D'apporter beaucoup d'enfants à la gloire. Jésus-Christ dit quelque chose d'important ici. Dans la prière modèle de Matthieu 6, il dit donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Luc, j'ai manqué la référence, il dit Pierre, c'est avant de mourir, sa prière avant de mourir, il dit Pierre, si c'est ta volonté, enlève cette coupe de moi. Éloigne-moi de cette chose, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Dieu le Père et Jésus-Christ avaient déjà prédéterminé que la seule façon de développer le genre de caractère volontaire, le genre de nature qui serait la nature de Dieu et de Jésus-Christ déjà, serait à travers le processus de rédemption qui est venu par Jésus-Christ. Il leur dit que ta volonté soit faite. Il abandonne tout dans sa vie à la volonté de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, verset 17. Dans Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que je dois prêcher cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à comprendre Dieu et qui il est? Le quatrième point de la prière modèle ici, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre budget, notre essence, ce que dont nous avons besoin pour fonctionner. Pour faire l'œuvre. Je suis très reconnaissant pour les 9 dernières années, nous avons pu être dans le noir, nous avons pu avoir des revenus solides et pour nous avoir fourni les membres dont nous avions besoin pour faire l'œuvre. On a eu 9 années, et On demande constamment à Dieu de nous aider à accomplir sa volonté. Et nous devrions tous prier que Dieu nous donne aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a quelques années, nous avons modifié le plan stratégique pour ajouter la gestion des comptes. Était quelque chose qui faisait partie de ce plan stratégique, d'avoir une bonne gestion des choses. Nous devons prier avec plus de ferveur pour l'œuvre de Dieu, pour nous donner la capacité de continuer à faire l'œuvre. C'est le travail du trésorier, de penser à ce qui doit être nécessaire. Cinquièmement, dans la prière ici, il est dit « Pardonne-nous nos offenses » dans Matthieu 6, verset 12. Nous manquons tous la marque de la gloire de Dieu à un moment donné. Mais notre œuvre doit inclure le pardon, nous, que nous devons nous repentir, que nous devons être pardonnés et que nous devons pardonner les offenses des autres. Jésus-Christ, le même moment où il est venu pour parler du royaume qui était proche, il a parlé de la repentance. Il a parlé de dire « Je suis désolé, je ne vis pas comme je devrais vivre. » Un changement, une transformation. Également, l'œuvre de Dieu, alors qu'il est commencé à Jérusalem dans le sermon que Pierre a donné le jour de la Pentecôte, il dit « Après avoir pris dans Acte 2, verset 38, la réponse de Pierre, après avoir donné son sermon, il dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Quel est le point de prêcher l'Évangile? C'est que les gens doivent en venir à la repentance profonde et sincère, choisir cette voie de vie, pas juste assister à l'assemblée, mais choisir cette voie de vie, être engagé, se faire baptiser, les apporter à la repentance. C'est la repentance en Dieu qui va les transformer en enfants de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui peut nous transformer. Nous avons besoin de demander le pardon de Dieu pour nos péchés. Sans cela, cela ne sert à rien. Le point suivant, il dit, ne nous induis pas en tentation. Nous devons demander à Dieu d'être protégé du malin. Je crois que c'est quelque chose que je prie souvent à Dieu dans l'Église. Comment est-ce qu'on va traverser cette période? C'est à travers Colib, à travers les controverses que nous avons. Les gens difficiles avec qui nous devons travailler parfois. Comment est-ce qu'on va traverser cette épreuve? Comment est-ce qu'on traverser cette situation? Il y a toutes sortes d'idées différentes, quoi que vous fassiez. Les choses continuent d'avancer, continuent d'être faites. C'est l'une de mes prières les plus importantes que j'ai faites. C'est de prier pour la protection de l'Église, pour la protection de son peuple. Et je crois que Dieu a répondu à ma prière. Nous avons vécu les deux dernières années, c'était une crise d'une fois dans notre vie, n'est-ce pas? Il y avait toujours quelque chose, une crise après l'autre, et nous devons demander à Dieu de nous protéger constamment. Le dernier élément, c'est de nous délivrer du malin. Je l'avais déjà lu par erreur, excusez-moi. Nous en sommes engagés chaque jour dans une guerre spirituelle. Satan est le dieu de ce monde. Il est le dieu des films et des livres et de tout ce qui nous amuse. Et il sait que son temps est presque fini. Et il va devenir de plus en plus haineux envers nous. Il va nous attaquer de plus en plus. Nous sommes engagés dans une guerre avec lui, qui est journalière. Il cherche à nous diviser. Il cherche à nous détruire. Il est appelé le destructeur. Il séduit, qui ment, qui nous ment, qui nous fait croire qu'on ne va pas y arriver. Il est le père du mensonge. Et il nous dévore, si on le laisse, dans Jacques, comme le dit l'apôtre Pierre. Comme j'ai commencé mon sermon, à moins que Dieu ne garde la ville, il la garde en vain. Nous avons besoin de continuellement demander la protection de Dieu. À la fin de ces 7 points de la prière modèle, Jésus revient à deux des demandes dans Matthieu 6, verset 13. Il dit, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Il mentionne à nouveau le royaume de Dieu parce qu'il n'y a rien de plus important que de prêcher ce royaume. Et il conclut au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est donc très important d'avoir le royaume de Dieu en tête, le problème de la réconciliation, du pardon, d'être exemple de cela. J'aimerais finir sur une note. Et nous avons eu un sermon qui a été donné à Louisville au tout début de l'Église unie. C'était l'un de ces sermons que les gens se souviennent, où les gens disent quelque chose qui vraiment nous touche. Et l'orateur avait dit que afin d'être une œuvre de Dieu, nous devons personnellement être une œuvre. Afin de faire l'œuvre de Dieu, nous devons être une œuvre nous-mêmes. Nous avons la bénédiction formidable d'avoir toutes ces connaissances, le ministère, et nous prêchons par notre exemple, et les membres prêchent par leur exemple également, par l'exemple qu'ils donnent à ceux autour d'eux. Est-ce que l'Esprit de Dieu vraiment se démontre dans notre vie? Est-ce que les gens vous voient et voient quelque chose de différent, une conduite différente, un cœur, une attitude qui est différente de celle du monde? Pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons être une œuvre nous-mêmes. Comment est-ce que nous affectons la vie d'autrui? Mon passage final est un verset qui m'a beaucoup encouragé moi-même au cours de ma vie. On peut se dire, qu'est-ce que j'ai accompli au cours de ma vie? Parfois j'entends parler du ministère que dans notre vie on se pose cette question, qu'est-ce qu'on a vraiment accompli dans notre vie? Et l'apôtre Paul écrit dans Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il ne va pas oublier votre travail, votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Peut-être que nous ne le réalisons pas, mais Dieu est beaucoup plus généreux avec nous que nous le sommes avec nous-mêmes parfois. Il n'a pas une attitude pleine de jugement envers nous. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Laissez-moi lire cela à nouveau, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Continuons de faire ça. Continuons d'être unis. Continue, regardez, examinez les 7 points de la prière modèle en tant que parallèle de l'état d'esprit que nous devons avoir pour faire l'œuvre de Dieu, pour devenir une œuvre. Dieu ne va pas oublier nos sacrifices. Nous avons tous sacrifié beaucoup pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons pris des détours dans notre vie. Votre vie a une grande signification et Dieu le sait, et vous serez récompensé à cause de ce que vous avez fait pour lui et pour son peuple. N'oubliez jamais cela.